Baumgartner, la population est habituée au séisme, hein, puisque le Japon se trouve dans une zone sensible. Par contre, l'image de cette explosion ce matin a beaucoup choqué.
Énormément. Et toute l'attention des Japonais, mais aussi de leurs médias, aujourd'hui est centrée sur cette explosion. Elle est très forte. Et aujourd'hui, le séisme, le tsunami, ce spectacle de désolation offert et si bien filmé par les chaînes de télévision japonaises est mis entre parenthèses. Pourquoi cette peur considérable suscitée par cette explosion? Eh bien, d'une part, les Japonais ne sont pas persuadés que leurs responsables seront capables de refroidir ce réacteur. Déjà, la presse leur dit que un Three Mile Island, du nom de cette centrale nucléaire américaine dans laquelle un réacteur avait fondu en partie, peut se produire à 240 km au nord de Tokyo. Ensuite, les Japonais n'accordent aucune confiance dans les assurances, les réassurances promulguées cette nuit par leurs autorités. Et si le Japon ne parvient pas à résoudre ce problème dans cette centrale, tout le programme nucléaire qui retrouve un regain de popularité dans le monde face à la hausse des prix du pétrole, des autres matières premières, en paiera le prix fort, à commencer dans le pays d'Hiroshima, où il est devenu pratiquement impossible aujourd'hui de construire une nouvelle.
Michiaki Tamada, 43 ans. J'ai suivi le lycée à temps partiel, ce qui fait que j'avais 21 ans quand j'ai été embauché au métro. Au début, je poinçonnais les tickets, puis j'ai supervisé le départ des rames en station, puis le quai. Un an à Ibadashi, 2 ans à Takebashi, je crois. Après ça, on m'a transféré au secteur de Nakano, avec en charge la surveillance des rames sur la ligne Marunouchi. Il faut passer un examen pour être promu de la surveillance d'une station à celle des rames. Pour devenir contrôleur, il y a une épreuve écrite, plus difficile encore, ainsi qu'un essai en situation, un examen médical, un entretien, tout ça. De mon temps, beaucoup de types tentaient le concours et seuls les meilleurs réussissaient. Je voulais un avancement pour passer de la station aux rames parce qu'on y fait moins d'heures. De nos jours, il n'y a plus guère de différence, mais époxy. Je me suis retrouvé dans le service des rames de Nakano en 1975 et pendant 4 ans, j'ai circulé sur la ligne Marunouchi. Ensuite, je suis passé au secteur Yoyogi sur la ligne Shioda. Depuis presque 2 ans, je suis sur la ligne Ibia. Quand on change de ligne, il y a plein de choses à réapprendre. La spécificité de chaque station, sa disposition, sa structure. Il faut vous enfoncer ça dans le crâne parce que sinon, vous ne savez jamais ce qui garantit la sécurité, et la sécurité, c'est ce qui prime sur tout. On a la sécurité en permanence à l'esprit au travail. Je subis même des alertes de temps en temps. La nuit, quand les gens ont bu, certains s'approchent des rames en marche, et surtout s'ils sont cachés par les colonnes, on n'a aucun moyen d'éviter l'accident. Et il y a l'heure de pointe, tout le monde attend au bord du quai à l'arrivée de la rame, c'est vraiment dangereux. Sur la ligne Ibia, la station Kitasenju est particulièrement délicate. Le quai ne peut pas contenir un nombre infini de passagers, alors quand ils ne peuvent pas progresser sur le quai contre le mur, ils se glissent entre la foule et le métro et ça craint. Le jour de l'attaque au gaz, le 20 mars, j'étais de repos, en principe, mais on manquait de personnel et on m'a demandé de venir. Est-ce que tu pourrais travailler demain? C'est donnant-donnant entre collègues. J'ai accepté sans beaucoup y réfléchir. J'ai commencé à 6h45. Arrivé à la station Nakameguro, j'ai été posté à 6h55 en direction de Minami-Senju. C'est-à-dire que j'ai pris une autre rame pour gagner celle qui m'était attribuée. De la station Minami-Senju, je suis reparti avec ma rame dans la direction opposée. Je ne me souviens pas exactement de l'heure, mais vers 7h55. Ce jour-là, les voitures étaient très chargées, comme d'habitude. Je n'ai rien remarqué de différent des autres jours, tandis que nous progressions jusqu'à ce que le central annonce Il y a une explosion à la centrale de Tsukiji. Arrêtez la rame. On a gagné la station suivante, Kodemacho, et j'ai lu un message à l'intention des passagers. Nous allons nous arrêter brièvement. Il y a eu une explosion à la station Tsukiji. Nous vous donnerons les causes de cet accident dès que nous en saurons davantage. Nous vous prions de nous excuser pour ce retard. On a laissé les portes ouvertes à Kodemacho. J'ai quitté la cabine pour vérifier depuis le quai qu'il n'y avait pas de problème. Les passagers m'ont posé des questions. Combien de temps est-ce que ça va prendre? Comme je n'avais aucune information détaillée, je n'ai pu que répondre « Bon, apparemment, il y a une explosion. Ça risque de durer un moment. » Je crois que nous sommes restés là une vingtaine de minutes. La rame derrière la mienne s'était immobilisée entre Akihabara et Kodemacho, parce qu'on lui bloquait sa route. Ensuite, un message est arrivé du central me demandant de faire descendre tous les passagers de ma rame et de repartir. Le métro qui suivait devait s'arrêter à quai. J'ai donc annoncé « Cette rame est hors service. Tous les passagers sont priés de descendre et de trouver, si possible, un autre moyen de transport. Nous nous excusons de la gêne occasionnée. » Autre message du central. « Ça risque de prendre plus de temps que prévu. » On n'a reçu aucune explication sur ce qui s'était passé à la station de Tsukiji, mais on a grappillé quelques informations à la radio. Ça n'avait guère de sens. Y avait-il eu une explosion? Quelle était l'étendue des dégâts? Tout ce qu'on savait, c'était que dans cette station régnait le chaos. Plusieurs personnes se sont effondrées. Comme rien ne peut exploser dans le métro, j'ai tout de suite craint un acte terroriste. C'est ça, un acte terroriste. Du sérieux. Dès que j'ai lu mon annonce et que les passagers sont descendus, les agents de station ont inspecté la rame. J'ai regardé à l'intérieur, aussi loin que je pouvais. Puis j'ai fermé les portes de la rame et la rame est repartie. Beaucoup de gens s'étaient plaints auparavant. « Vous ne pouvez pas nous abandonner là comme ça !» Mais on avait expliqué qu'une rame derrière nous devait laisser descendre ses passagers à cette station, puis on s'est excusé. Nous avons fait halte dans un tunnel entre Kodemacho et Ningyosho. Le conducteur et moi étions seuls à bord. Quand nous sommes arrêtés, j'ai parcouru toute la longueur de la rame pour une inspection complète. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel. N'empêche, je sentais que quelque chose n'allait pas. Après la deuxième ou la troisième voiture, je n'ai pas pu m'empêcher de penser... Il y a quelque chose de différent. Il ne s'agissait pas vraiment d'une odeur, mais d'une intuition. Il y a quelque chose de bizarre. Tout le monde transpire. L'odeur des corps qui imprègnent les vêtements laisse sa marque indélébile. Prenez le métro chaque jour, et vous saurez quand ça commence à sentir autre chose que l'air.
Masanori Okuyama, 42 ans. Le 20 mars, je n'avais pas une journée trop chargée au travail. Mais comme c'était la fin de l'année fiscale, il ne manquait pas de tâches à exécuter. Le lendemain était férié. J'ai quitté la maison une heure plus tôt que d'habitude. Je voulais arriver en avance pour ranger mes dossiers, ce genre de choses. Je suis presque certain d'avoir pris la rame de 7h50 à Kitasenju. En général, je monte dans la seconde voiture. Quand on a atteint Kodemacho, ils ont demandé par haut-parleur qu'on descende du métro. Il y avait une explosion dans la rame précédente, ou quelque chose comme ça. Tout le monde est sorti. Je suis resté sur le quai en espérant qu'on pourrait repartir. J'étais planté là depuis une ou deux minutes lorsqu'un homme s'est mis à crier, à une vingtaine de mètres de moi, un cri étrange, indescriptible. On l'a emmené ailleurs. Presque en même temps, je me suis dit, je respire bizarrement. Pas une pensée bien profonde, juste une remarque en passant. Puis, c'est ça. Une femme s'est accroupie, j'ai cru qu'elle allait vomir ou qu'elle ne se sentait pas bien, elle non plus. Peu après, toutefois, il y a une autre annonce, nous vous prions d'évacuer la station, ils ont donné une raison, mais je ne me souviens plus ce que c'était. La sortie de la station Kodemacho est au milieu du quai. Les gens qui se trouvaient à l'avant de la rame ont dû rebrousser chemin pour pouvoir sortir. je ne suis pas bien sûr du temps que ça a pris. Moi, je suis remonté dans la rame. En traversant les voitures, j'avançais plus vite que sur le quai où tout le monde se pressait. À mi-chemin, j'ai aperçu quelqu'un qui s'était effondré. Ça, j'en suis certain. Il me semble que, de retour sur le quai, j'ai distingué une flaque de quelque chose derrière une colonne. Je me souviens de ça. Et de l'odeur. Semblable à celle des solvants qu'on utilise sur les sites de construction. Assez étouffante. J'ai de l'asthme depuis l'enfance et j'ai cru que ça avait un rapport. Aucun des autres passagers ne semblait se presser cependant. Ils se dirigeaient tous calmement vers les guichets. Dehors, il y avait quelqu'un allongé par terre, la bouche remplie d'écume, et une autre personne qui essayait de l'aider. Beaucoup de gens étaient simplement assis avec le nez et les yeux qui coulaient. C'était une vision extraordinaire. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. J'éprouvais seulement un sentiment de danger imminent. Je ne vais jamais arriver au bureau, et je pensais, c'est grave. Je ferais mieux de m'asseoir tranquillement ici un moment. Je suis donc resté là, debout d'abord, assis ensuite. Soudain, mon champ de vision s'est rétréci et obscurci. En plus, j'ai eu des vertiges. Pourtant, l'explosion, la personne qui avait crié, ces gens qui tombèrent, rien de tout cela n'avait de sens pour moi et je ne faisais pas du tout le rapprochement avec mon propre état. Je demeurais assis là, à regarder autour de moi et à me dire, il vaut mieux ne pas bouger. L'instinct, sans doute. La plupart des gens, en dépit du fait qu'ils étaient assez atteints physiquement, tentaient de se rendre à leur travail, de continuer leur chemin. Ça m'a paru très étrange. Ils arrivaient à peine à marcher. En fait, un type rampait près de moi. Il était évident qu'il n'était pas en état de travailler. En voyant une femme s'efforcer de se remettre debout, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Mais si vous vous sentez mal, vous devriez rester assise ». Sinon, je n'ai parlé à personne. Je ne sais pas ce qu'ont fait les autres, s'ils se sont parlé. Bien sûr, je me demandais ce qui se passait, mais je n'ai interrogé personne. Je ne souffrais pas énormément et ma nausée était supportable. On a attendu longtemps les ambulances. En fin de compte, il en est arrivé une, la seule que j'ai vue. La plupart des gens ont fini par hailer des taxis et les chauffeurs ont accepté de les emmener à l'hôpital. Il est apparu évident que, dans une telle situation, les services d'urgence ne sont pas d'une grande aide. Au bout de quelques temps, avec trois personnes, j'ai pris un taxi pour l'hôpital. Nos cas n'étaient pas assez graves pour être considérés comme des urgences. Les deux autres étaient des employés. On a dû se parler dans le taxi, mais je ne m'en souviens pas. J'ignore pourquoi je ne parviens pas à m'en souvenir. On est allé à l'hôpital du Memorial Mitsui à Akihabara. Je ne me rappelle absolument rien de la manière dont je m'y suis retrouvé. Peut-être quelqu'un nous a-t-il accompagnés. De l'hôpital, j'ai appelé le bureau. Ils étaient déjà au courant pour l'attaque au gaz. Deux collègues avaient été touchés eux aussi, pas gravement, à peu près les mêmes symptômes que moi. Je suis resté deux nuits à l'hôpital. Et ils ont utilisé des médicaments pour dilater mes pupilles, qui ont fini par trop s'élargir et tout m'éblouissait. Ma vision s'est dégradée, comme effet secondaire, ça a duré environ une semaine. En dehors de ça, je n'ai pas beaucoup souffert physiquement. Juste mon asthme qui s'est réveillé, une vraie torture, mais j'y suis habitué. Que ma fatigue soit due ou non au sarin, je ne saurais le dire. C'est une zone grise. Oui, il est possible que je vieillisse tout bêtement, j'oublie plein de choses. Mais là aussi, qui peut en affirmer la cause? Et j'ai mal au dos, avant également, mais à présent c'est très pénible. Comme sans doute pour la plupart des hommes de mon âge. Ce que je trouve effrayant, c'est les médias. Surtout la télévision, si limitée dans ce qu'elle montre. Quand ils parlent de l'attaque au gaz, les journalistes ont des idées préconçues et donnent l'illusion que le petit détail sur lequel ils se concentrent est représentatif de l'ensemble du problème. Lorsque je me tenais dehors à la station Colmemacho, il est certain que ce tronçon de rue était dans un état anormal. Mais tout autour, le monde continuait à tourner. Les voitures circulaient. En y repensant, c'était irréel. Le contraste était tellement bizarre. Mais à la télévision, ils n'ont montré que la partie anormale, très différente de l'impression que j'avais eue. Ça m'a fait comprendre à quel point la télévision est effrayante.
Kiyoka Izumi, 26 ans. À l'époque, je vivais à Waseda, dans la partie nord-ouest du centre de Tokyo. Mon bureau se situait à Kamiacho, au sud-est du centre de Tokyo. Si bien que j'empruntais le métro, d'abord la ligne Tozai, puis changement à Otemachi pour la ligne Shioda, jusqu'à Kazumigaseki, puis une station sur la ligne Ibiya pour Kamiacho. Je prenais mon poste à 8h30. Ce qui me faisait quitter la maison entre 7h45 et 7h50. J'étais toujours une des premières à me mettre au travail, un peu avant 8h30. Tout le monde arrivait juste à temps. Dans les entreprises japonaises, j'avais appris qu'on comptait sur votre présence au moins 30 minutes avant l'heure officielle. Mais dans une entreprise étrangère, on considère que chacun peut commencer à son rythme. On ne récolte pas de bons points pour arriver tôt. Je me levais entre 6h15 et 6h20, et je n'avalais guère plus qu'une tasse de café en vitesse. La ligne Tozai est souvent surpeuplée, mais si on évite l'heure de pointe, le trajet n'est pas trop pénible. Jamais je n'ai eu de problème avec des pervers qui auraient tenté de me peloter, ni rien de tout ça. Je suis très rarement malade. En ce matin du 20 mars, je ne me sentais pas bien, mais j'ai quand même décidé d'aller travailler. J'ai quitté la ligne Tozai à Otemachi et j'ai pris la ligne Shioda en me disant « Bon sang, je ne suis vraiment pas bien aujourd'hui. » J'ai inspiré profondément et soudain, mon souffle s'est figé, comme ça. J'étais en tête de rame de la ligne Shioda. Il n'y avait pas trop foule. Tous les sièges étaient occupés et seuls quelques passagers étaient debout ça et là. On pouvait encore voir l'autre extrémité de la voiture. J'étais debout près de la cabine du conducteur. Je tenais la barre à côté de la porte. Puis, comme je l'ai dit, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai éprouvé une douleur soudaine. Non, ce n'était pas vraiment douloureux. En fait, c'était comme si on m'avait tiré dessus, ou quelque chose comme ça. Tout à coup, ma respiration s'est complètement arrêtée. Si j'inhalais à nouveau, je croyais que mes boyaux allaient sortir par ma bouche. Tout est devenu vide, sans doute parce que je couvais quelque chose. Ça a été mon raisonnement. Mais jamais je ne m'étais sentie aussi mal. C'était intense à ce point. En y repensant aujourd'hui, ça semble curieux, mais je me suis dit, peut-être que mon grand-père vient de mourir. Il vivait au nord du pays, dans la préfecture d'Ishikawa, et il avait 94 ans. J'avais appris qu'il était tombé malade, et j'ai cru à une sorte de signe. Ce fut ma première idée. Peut-être est-il mort ou mourant. Au bout d'un moment, j'ai de nouveau pu respirer. Mais après avoir dépassé la station Ibiya, en arrêt avant Kazumigaseki, je me suis mise à tousser affreusement. Et comme tout le monde toussait dans ma voiture, j'ai compris que quelque chose d'étrange se passait. Les autres sont devenus très nerveux. En tout cas, quand la rame s'est immobilisée à Kazumi Gaseki, je suis sortie sans bien réfléchir. Des passagers ont interpellé un préposé à la station. « Quelque chose ne va pas, venez vite !» Et ils l'ont entraîné vers la voiture. Je n'ai pas vu ce qui se passait ensuite, mais c'est cet agent qui a emporté la poche de sarin et qui en est mort. J'ai quitté le quai de la ligne Chiyoda et je me suis dirigée vers celle d'Ibiya, comme d'habitude. Arrivée sur le quai, en bas de l'escalier, j'ai entendu le signal d'alarme. Bip ! Comme j'avais travaillé pour JR, j'ai su immédiatement qu'il y avait eu un accident. C'est alors qu'un message a été diffusé par les haut-parleurs. Juste quand je me disais « je ferais mieux de sortir de là », une rame de la ligne Ibiya est arrivée en sens inverse. J'ai vu, à l'affolement des employés, que ce n'était pas une situation ordinaire, et la rame était complètement vide, sans le moindre passager à bord. Je n'ai appris que plus tard que ce métro-là aussi avait été attaqué au gaz sarin. Ils étaient en pleine crise à la station Kamiacho, ou ailleurs, et ils avaient évacué tous les passagers. Les haut-parleurs ont ordonné « Tout le monde doit évacuer la station !» Les gens se dirigeaient vers les sorties, mais je commençais à me sentir vraiment malade. Si bien qu'au lieu de filer tout droit dehors, j'ai cru préférable d'aller aux toilettes. J'ai cherché à l'autre bout de la station le bureau du chef de gare, parce que les toilettes sont juste à côté. En passant devant le bureau, j'ai vu des employés allongés par terre. Trois, je pense. Il devait y avoir eu un accident grave. J'ai pourtant continué jusqu'aux toilettes. Et quand j'en suis ressortie, j'ai monté l'escalier et je me suis retrouvée devant le ministère du Commerce et de l'Industrie. Tout cela a dû me prendre dans les 10 minutes. Pendant ce temps, ils avaient fait sortir les employés que j'avais vus dans le bureau. Une fois dehors, j'ai regardé autour de moi. Et ce que j'ai vu, c'était, comment dire, l'enfer décrirait parfaitement la situation. Trois hommes étaient par terre, une cuillère dans la bouche, pour éviter qu'ils ne s'étouffent avec leur langue. Il y avait aussi 6 autres membres du personnel, assis dans les parterres de fleurs, la tête entre les mains, en larmes. Une fille sanglotait, incapable de parler. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. J'ai interpellé un des employés et je lui ai dit « J'ai travaillé pour JR. Je suis formée pour gérer les situations de crise. Est-ce que je peux vous aider ?» Il a continué à regarder dans le vide et tout ce qu'il a pu articuler, c'était « Oui, aidez. » Je me suis tournée vers les autres, assis là. « C'est pas le moment de pleurer. » « On ne pleure pas, » ont-ils répondu, alors qu'ils en avaient bien l'air. J'en ai conclu qu'ils pensaient à leur collègue mort. « Est-ce que quelqu'un a appelé une ambulance ?» Ils ont répondu que oui, mais quand j'ai entendu les sirènes, je n'ai pas eu l'impression qu'elles s'approchaient de nous. Je ne sais pas pourquoi, mais on a été les derniers à recevoir de l'aide. Si bien que les cas les plus graves ont été les derniers à être conduits à l'hôpital, ce qui a causé la mort de 2 personnes. Les caméramans de la télévision de Tokyo filmaient la scène. Ils avaient garé leur van tout près. J'ai couru vers l'équipe. « C'est pas le moment. Si vous avez un moyen de transport, conduisez ces gens à l'hôpital. » Le chauffeur a consulté les reporters. « D'accord, » a-t-il finalement accepté. Quand je travaillais pour le JR, on m'avait appris à toujours porter un foulard rouge. En cas d'urgence, on pouvait l'agiter pour arrêter les rames. Voilà que je pensais foulard. Quelqu'un m'a prêté un mouchoir, trop petit, mais c'est tout ce que j'ai pu confier au chauffeur de l'équipe de télévision, en lui donnant pour instruction. « Emportez ces gens à l'hôpital le plus proche, c'est une urgence. Klaxonnez tout du long et brûlez les feux rouges s'il le faut. Ne vous arrêtez pas. »
Yuko Nakayama, la trentaine. En mars dernier, au moment où l'attaque au gaz a eu lieu, j'avais une dizaine d'heures d'enseignement réparties sur 4 ou 5 jours par semaine. En fait, c'est pour cette raison que j'étais intoxiquée au sarin. Mon élève travaillait pour une entreprise à Otemachi, que je rejoins grâce à la ligne Marunouchi. Le cours commençait à 9h. Oui, assez tôt, mais beaucoup d'élèves aiment que le cours soit terminé avant le début des heures de bureau. Ce matin-là, j'ai quitté la maison vers 8h et j'ai pris le métro de 8h32 à la station Ikebukuro. De cette manière, j'étais sûre d'être à l'heure pour mon cours. J'allais descendre à Otemachi, monter l'escalier, parfait. La station Ikebukuro est le terminus de la ligne Marunouchi. Les rames vides attendent donc toujours à partir de chaque côté du quai. Ce jour-là, une rame s'était présentée du côté gauche et beaucoup de gens étaient déjà à bord. D'autres attendaient du côté droit, mais la rame n'était pas encore là. J'ai décidé que je serais à l'heure, même si je prenais celle-là. Les métros partent en général à 2 ou 3 minutes d'intervalle. Et comme j'étais assez fatiguée, je voulais pouvoir m'asseoir. La rame est arrivée, je suis entrée par la première porte de la deuxième voiture. Et je me suis assise à droite. La rame est partie vers Shin Otsuka. Au Japon, les métros sont silencieux le matin. Les passagers ne prononcent pratiquement pas un mot. C'était donc dans ce silence que beaucoup de gens toussaient. « Oh, me suis-je dit, tous ces gens ont attrapé froid. » Vous savez, la ligne Marunouchi monte un peu pour devenir aérienne après Shin Otsuka, Nogadani, Karakuen. À Nogadani, les sorties sont à l'extrémité des Bukuro du quai et peu de passagers descendent à cette station d'ordinaire. Sauf que ce jour-là, curieusement, beaucoup de gens l'ont fait. « Bizarre, me suis-je dit, sans y prêter plus d'attention que ça. » Les passagers continuaient à tousser, et à l'intérieur de la voiture me paraissait extrêmement lumineux. Ce que j'ai pris sur coup pour de la clarté, c'était plutôt y repenser une teinte jaune, ou plutôt une couleur perle irisée avec du jaune. Pour cause d'anémie, je m'étais déjà évanouie une fois, et ça ressemblait à ça. Il faut en avoir fait l'expérience pour comprendre. Peu à peu, c'est devenu étouffant à l'intérieur. La voiture était visiblement très récente. Aussi, j'ai pensé que l'odeur qui nous agressait était liée à des matériaux neufs, à la colle ou quelque chose de ce genre. Je me suis retournée et j'ai ouvert une fenêtre. Personne d'autre ne semblait y avoir songé. Après quelques secondes d'hésitation, j'en ai ouvert une seconde. J'ai toujours eu un système respiratoire assez faible, j'ai affreusement mal à la gorge et je tousse chaque fois que j'attrape un rhume. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis aussi sensible aux synthétiques. On était encore en mars, il ne faisait pas chaud dehors, mais je ne comprenais pas qu'on puisse garder ces fenêtres fermées. Comment les autres passagers arrivaient-ils à supporter cette étrange odeur ? Non, pas étrange. C'était âcre. Comment le définir ? Cela ressemblait plus à une sensation, une suffocation qu'à une odeur. J'ai ouvert ces deux fenêtres pour aérer la voiture entre Nogadani et Karakuen, je crois. Quand la rame s'est arrêtée à ces stations, beaucoup de passagers sont sortis, mais personne n'a réagi au fait que j'avais ouvert les fenêtres. Personne n'a rien dit. Tout le monde était tellement silencieux. Aucune réaction, aucune communication. J'ai vécu en Amérique pendant un an et croyez-moi, si la même chose s'était produite là-bas, ça aurait déclenché tout un spectacle. Les gens auraient crié « Qu'est-ce qui se passe ?» et se seraient unis pour trouver la cause du problème. Plus tard, la police m'a demandé « Est-ce que les gens ont paniqué ?» Tout le monde était silencieux. Personne n'a prononcé le moindre mot et j'ai répondu après réflexion. Tous ceux qui sont descendus toussaient sur le quai, je les voyais par la fenêtre de ma voiture. Après Korakuen, c'est devenu de plus en plus suffocant. Et la teinte jaune a gagné en intensité. Je me suis dit que jamais je n'arriverais au travail à temps, mais je pensais encore pouvoir faire de mon mieux pour m'y rendre. Je suis donc restée dans le métro, tout en décidant que je changerais de voiture quand j'atteindrais la station Ogo-Sanchome. La voiture s'était alors presque vidée et beaucoup de sièges étaient libres. Une situation inédite, puisque les rames sont en général bondées à cette heure. J'ai choisi de sortir par la porte du milieu ou de l'arrière. C'était vraiment trop insupportable. Et puis soudain, j'ai vu cet homme en uniforme de policier, en gants blancs, entrer dans la voiture à une porte de moi, ramasser un objet enveloppé d'un journal à deux mains et redescendre avec. Un agent de la station sur le quai a apporté un seau en plastique et le policier a déposé son paquet. Deux ou trois agents du métro s'affairaient. Tout cela s'est produit alors que je quittais la voiture. L'image des gants blancs du policier et de la manière dont il a sauvé le paquet est gravée dans mon esprit. Je n'ai repris le travail que plusieurs mois après l'attaque. Mais la question qui m'irrite le plus, c'est « Avez-vous des séquelles ?» Je mène une vie en m'accrochant à l'idée que je vais bien sans problème médical grave. Pourtant, comme c'est une première dans l'histoire de la médecine, des incertitudes demeurent. Je ne peux pas supporter qu'on me pose cette question. Mais peut-être cette réaction est-elle justement une séquelle.
Le tremblement de terre de Kobe et l'attaque au gaz dans le métro de Tokyo en janvier et mars 1995 sont deux des pires tragédies de l'histoire du Japon d'après-guerre. On peut affirmer sans exagération que la conscience japonaise a connu une franche mutation entre avant et après ces événements. Ces catastrophes jumelles resteront ancrées dans notre psychisme, comme deux bornes dans notre vie en tant que peuple. Que deux cataclysmes de cette ampleur se soient succédés de si près est stupéfiant, mais c'est une coïncidence. Néanmoins, comme ils se sont produits aussi au moment où la bulle économique japonaise éclatait, marquant la fin des temps d'excès rampants, ils ont inauguré une période d'enquête critique dans les racines mêmes de l'État japonais. Ça a été comme si ces événements nous avaient attendus pour nous tendre une embuscade. Ils ont eu en commun un élément de violence absolue. L'un a été une calamité naturelle inévitable, l'autre un acte humain terrible. Parallèle ténu sans doute, et pourtant. Pour ceux qui ont été touchés, les souffrances montraient des similitudes effrayantes. La source et la nature de la violence étaient différentes, mais le choc a été aussi dévastateur dans les deux cas. C'est l'impression que j'ai eue en parlant aux survivants de l'attaque au gaz.
Takanori Ishiba, 39 ans. On nous a demandé de quitter la station par la sortie en queue, parce qu'il y avait un problème à l'avant de la rame. Tout le monde s'est dirigé vers cette sortie dans le calme. Par prudence, j'ai posé un mouchoir sur ma bouche, au cas où. Mais personne d'autre ne l'a fait. J'ai eu l'impression d'être le seul à sentir qu'il y avait un danger. Pourtant, j'étais curieux de savoir ce qui se passait. Tandis que la foule avançait vers la sortie, j'ai regardé l'écran de surveillance au bout du quai et j'ai aperçu quelqu'un gisant inconscient par terre. Mais un agent de la station m'a lancé « Qu'est-ce que vous faites? Sortez tout de suite !» Quand je me suis retrouvée dehors, j'ai vu plusieurs personnes qui s'accroupissaient, tombaient, s'étendaient par terre. Elle se frottait les yeux. J'ai décidé de savoir ce qui se passait. Je ne pouvais pas simplement les laisser là et m'en aller. J'ai donc gagné une passerelle pour dominer la scène. Tant pis pour ma réunion. Une ambulance n'a pas tardé à arriver, bloquant la circulation de la rue en sens inverse. On a monté une grande tente et transporter les malades sur des brancards, l'un après l'autre, à l'intérieur. Une foule de curieux a fini par se rassembler autour de moi, sur la passerelle, et je suis partie. J'ai pris la ligne Ginza pour Shibuya, dans l'espoir d'attraper un bus pour Hiroo. C'est une bonne chose que je me sois souvenue du bus que j'emprunte parfois. Mais beaucoup plus de gens que d'ordinaire attendaient au terminus des bus, sans doute parce que la ligne Ibiya était fermée. C'est alors que j'ai repéré un jeune collègue, 24 ou 25 ans, appuyé à la rambarde, et une femme du bureau qui tentait de le maintenir debout. Ne sachant rien des problèmes sur la ligne Ibiya, elle pensait qu'il avait une crise d'anémie.
ce qui est assez courant le matin. Elle lui frottait le dos. Ça va, ça va? Apparemment, il avait pris la ligne Tozai avant de changer pour la ligne Ibiya, comme moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Lui ai-je demandé. Il n'a pu répondre que dans le métro. Je savais que beaucoup de personnes s'étaient évanouies à Tsujiki. Ça m'est venu comme un flash. Ce n'est pas un simple cas d'anémie, c'est grave. Il fallait l'emmener au plus vite à l'hôpital. J'ai foncé vers une cabine téléphonique et composé le 119. Mais je n'ai entendu qu'un disque. Toutes nos ambulances sont sorties pour l'instant et ne peuvent vous rejoindre. Nous vous prions de rester où vous êtes. Elles étaient toutes sur Tsujiki et Kazumigaseki. Je suis donc allée au poste de police devant la station de métro pour tenter d'obtenir de l'aide. Mais la police n'était encore au courant de rien. Quand j'ai bafouillé quelque chose à propos d'un incident dans le métro, l'officier n'avait aucune idée de ce dont je parlais et il m'a éconduit. J'ai alors compris que les comportements habituels ne donneraient rien. Et j'ai décidé de héler un taxi et d'emmener moi-même mon collègue à l'hôpital. La femme et moi l'avons maintenu entre nous et nous avons demandé au chauffeur de nous conduire à l'hôpital le plus proche, depuis la Croix-Rouge, à Hiroo. Mon collègue était en piteux état. Il ne pouvait tenir debout. Il souffrait et parvenait à peine à prononcer un mot. Il n'était pas en mesure de nous dire ce qui était arrivé. Si je n'étais pas passée par là, je doute que quiconque aurait fait ce qu'il fallait pour lui. Personne n'en aurait eu l'idée. Et toute seule, la jeune femme aurait eu du mal à le traîner jusqu'au taxi. On a été les premières victimes du sarin à l'hôpital de la Croix-Rouge. Le personnel criait presque « On a notre premier !» Je n'ai pas pensé sur le coup que je risquais d'être affectée moi aussi. Mon nez coulait, mais j'ai cru avoir attrapé un rhume. Je ne souffrais d'aucun des autres symptômes. Quand les médecins ont pris mon collègue en charge, j'ai appelé ses parents pour leur expliquer la situation. Ça n'a pas été facile d'avoir une ligne. Et ils n'ont réussi à venir qu'à 14 heures, alors que les lieux grouillaient de victimes du sarin. Des gens étaient sous perfusion jusque dans les couloirs. J'étais là depuis le matin et j'avais fait la connaissance de toutes les infirmières. Une d'entre elles m'a suggéré « Vous devriez vous faire tester ». Je me suis dit « Pourquoi pas ?» et on m'a examinée. J'étais à l'hôpital depuis une demi-journée sans qu'on ait prêté attention à moi. Eh bien, mes pupilles étaient contractées, évidemment, mais pas au point que tout m'ait semblé sombre. Néanmoins, on m'a mis sous perfusion pendant une heure par précaution. Je me souviens d'un menuisier aux doigts coupés qui est arrivé en catastrophe, couvert de sang. Ce pauvre homme n'a trouvé personne pour s'occuper de lui. C'était du genre « Est-ce que vous ne voyez pas que nous traitons des victimes du sarin ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de penser et d'être désolée pour lui. Il avait l'air bien plus mal en point que nous. Tout sanguinolent comme ça. La perfusion retirée, je suis allée au bureau. Mon nez coulait encore, mais ça n'avait pas d'importance. Ensuite, je suis rentrée chez moi, comme d'habitude. Je n'avais pas circulé dans une voiture où se trouvait le sarin. Voilà pourquoi j'ai été aussi peu touchée. Et pourquoi on m'a examinée seulement par acquis de conscience à l'hôpital où j'ai conduit mon collègue. C'est cependant comme ça que mon nom s'est retrouvé dans les journaux. Mon jeune collègue ne travaille plus pour notre entreprise. Il l'a quittée il y a un an. Mais ça n'a rien à voir avec l'attaque au gaz. Il allait bien à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Quant à moi, ayant à peine été affectée, mes impressions sur l'attaque au gaz sont assez semblables à celles de la majorité des gens. Bien sûr, je ne pense pas que ce genre de choses soit admissible. Mais au-delà de ça, ma foi. Après, la régie du métro m'a envoyé une carte de transport gratuite. Je suppose que ça a été aussi une sale histoire pour les transports. Hideki Sono, 36 ans. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu des agents de la station en uniforme vert qui entraient et sortaient. Le sol était mouillé. La flaque était à environ 5 mètres de moi. Les criminels avaient percé les poches de sarin et ils étaient descendus à Chin Ochanomizu. Comme je dormais, je n'avais rien vu. La police m'a interrogé à de multiples reprises. Ils ont eu des soupçons à mon sujet parce que j'allais à Aoyama et que le quartier général d'Aom est à Aoyama. N'empêche que je ne l'ai pas vu, celui qui a fait ça. La rame a continué jusqu'à l'arrêt suivant, Kokai Jijidomae, où on a tous dû descendre. On ne nous a pas donné d'informations. On a juste diffusé ce message par haut-parleur. Cette rame est hors service. Tous les passagers doivent descendre. Entre Kazumi Gaseki et Kokai Jijidomae, j'ai vraiment souffert. Je toussais et n'arrivais plus à respirer. Quand on a atteint Kokai Jijidomae, des gens près de moi ne pouvaient plus bouger. Une dame d'une cinquantaine d'années a ainsi dû être emportée par les agents de la station. On était une dizaine dans cette voiture et beaucoup tenaient un mouchoir sur leur bouche et toussaient. Qu'est-ce qui se passe ici ? Me suis-je demandé. Mais je devais aller travailler. J'avais toute cette liste de choses à faire. Sur le quai, il y avait des tas de personnes accroupies par terre et une ou deux allongées. Les agents avaient rassemblé tous ceux qui se sentaient mal. Il devait bien y en avoir 50 et deux ou trois paraissaient paralysés. Curieusement, l'atmosphère n'était pas du tout tendue, mais j'avais une sensation bizarre. Si je parvenais à inhaler, aucun souffle ne voulait ressortir, un peu comme s'il n'y avait plus d'air. Je pouvais encore marcher pourtant, si bien que j'ai cru ne pas avoir de problème et qu'au lieu de me joindre au groupe des malades, j'ai pris le métro suivant. Il est arrivé très vite, mais j'y étais à peine montée que j'ai vacillé sur mes jambes et que mes yeux ont soudain cessé de voir. On aurait dit que la nuit était tombée. Zut, ai-je pensé, j'aurais dû rester avec les autres. Arrivé à la station Omotesando, j'ai demandé à un agent. Je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas bien. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose dans le métro ? Il semble qu'il y ait eu une explosion à Achobori, a-t-il répondu. Il y a aussi eu un problème dans la rame que je viens d'emprunter. Il a balayé mon objection en affirmant que c'était de l'essence ou quelque chose comme ça qui s'était renversé. Devant ces informations tout à fait contradictoires, je suis allée au bureau pour parler au chef de station. Je me sens horriblement mal et je n'y vois presque plus rien, lui ai-je dit. Mais les nouvelles n'avaient pas encore atteint Omotesando. Pourquoi ne pas vous asseoir un moment, m'a-t-il suggéré. Voulez-vous boire quelque chose de frais ? C'était très gentil, mais ces gens ne comprenaient rien. J'en ai conclu, c'est sans espoir. J'ai renoncé, je suis ressortie du métro. C'était une journée splendide, et pourtant, tout était sombre. Ça se présente mal. C'est ce qui m'a décidé à aller à l'hôpital près de mon bureau. Quand j'y suis arrivée, je n'ai pas vraiment pu raconter ce qui s'était passé. C'est sans doute une urgence. Je viens de quitter le métro et... Vous savez, j'ai expliqué la situation aussi bien que possible, mais on n'a pas pu m'examiner tout de suite. J'ai téléphoné au bureau. Je ne me sens pas bien. Je serai peut-être en retard. J'ai attendu pendant 3 heures. 3 heures sans qu'il fasse quoi que ce soit. Mon souffle était de plus en plus court. Ma vision de plus en plus obscure.
je devenais fou. J'ai décidé d'appeler la régie des transports, juste pour obtenir une explication. N'avait-il pas rassemblé sur le quai ces personnes qui se sentaient mal? Je me demandais ce qui leur était arrivé. Mais impossible de joindre quiconque. Aux nouvelles de 11 heures, quand on a appris qu'il s'agissait de sarin, un médecin s'est enfin intéressé à moi. Ils avaient compris. J'ai été immédiatement hospitalisée et mise sous perfusion. J'étais leur premier malade du sarin et le personnel médical était soudain fasciné par mon cas. On m'entourait, on voulait connaître tous mes symptômes. Ils en parlaient entre eux. Vous voyez, c'est ça que ça fait. Je suis restée là 3 jours. J'étais si épuisée que j'ai bien dormi, mais les 3 mois qui ont suivi ont été durs. J'étais tout le temps fatiguée. Dès que j'essayais de faire quelque chose, je devais renoncer. Je n'y voyais toujours pas bien. Je n'arrivais pas à faire le point, c'était flou et mon champ de vision était très rétréci. Pour mon travail, je dois beaucoup conduire, mais dès la nuit tombée, je ne distinguais plus rien. Alors que j'avais jusque-là une bonne vue, je ne pouvais même pas lire les panneaux routiers. Et comme j'étais également incapable de lire ce qui s'inscrivait sur l'écran de mon ordinateur, il m'était impossible de travailler. J'ai dû aussi perdre un peu la tête. C'est vrai, je disais aux gens, il se passe quelque chose là. Vous verrez, quelque chose d'étrange va se produire. J'ai acheté des équipements de survie dans les magasins de fournitures pour campeurs. Quand je suis redevenue normale, je me suis dit que j'avais été vraiment idiot, mais sur le coup, j'étais plus que sérieux. Qu'est-ce que je vais faire de mon couteau suisse maintenant? C'est drôle, mais je n'ai pas éprouvé de colère. Bien sûr, ça me met en rage quand je songe à ceux qui sont morts. Je suis particulièrement triste en pensant aux agents du métro qui ont perdu la vie en nettoyant le sarin. Sans eux, je serais peut-être mort moi aussi. Pourtant, je ne ressens ni haine ni amertume personnelle envers les criminels. C'est plutôt comme si j'avais eu un accident. Vous vous attendiez à une autre réponse? Quoi qu'il en soit, je n'ai pas supporté la manière dont les médias ont couvert Paume. Je ne veux pas regarder ça. Oui, on peut dire que ça a renforcé ma méfiance vis-à-vis des médias. Bref, tout le monde aime le scandale. Et tout ce qu'ils savent dire, c'est « Quelle honte !» J'ai même cessé de lire des magazines.
Minoru Miyata, 54 ans. On était le premier média sur place. Des gens étaient transportés sur des brancards. Un policier aboyait dans sa radio. Faites venir des ambulances ici tout de suite. Mais à cette heure, Saint-Luc et d'autres hôpitaux connaissaient déjà une vraie panique et aucune ambulance ne venait dans notre direction. Ils utilisaient même des voitures banalisées de la police pour emporter les victimes. C'était grave à ce point. Tout le monde hurlait. Ikeda filmait. C'est à ce moment que quelqu'un, une des victimes peut-être, a hurlé « Et si, au lieu de filmer, vous nous aidiez à emporter une ou deux personnes à l'hôpital ?» Le van était plein de tout ce dont on a besoin en reportage. On ne pouvait pas simplement charger des gens et partir. Avec l'équipe, on a discuté « Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça fera mauvais effet si on ne les secourt pas. » Bon, j'y vais et je finis par décider. J'ai couru vers le jeune agent qui criait et je lui ai demandé où j'étais censé aller. Emportez-les à l'hôpital d'Ibia. J'ai trouvé ça curieux car l'hôpital de Toranomon était plus proche, mais c'était parce que celui d'Ibia, près de la station Shinbashi, était affilié à la régie du métro. On a déchargé tout l'équipement juste au cas où il se passerait autre chose et on est parti pour l'hôpital d'Ibia. Mais le van n'avait pas de gyrophare, alors le jeune agent s'est assis à côté de moi sur le siège avant et il a ajouté son mouchoir rouge par la fenêtre. Le mouchoir rouge avait été prêté par une jeune infirmière. Elle nous avait dit de l'agiter pour montrer qu'on était un véhicule d'urgence. Dans le van, on a embarqué le chef adjoint de la station, Takahashi, qui est mort, et un autre agent des transports, je ne connais pas son nom, d'une trentaine d'années, Ce n'était pas aussi mal que Takahashi a réussi à monter dans le van tout seul. On les a allongés au travers du siège arrière. Le jeune agent ne cessait de demander « Takahashi, est-ce que ça va ?» C'est comme ça que j'ai appris son nom. Takahashi était à peine conscient et ne pouvait que grogner en réponse. Ça ne nous a pris que 3 minutes environ pour arriver à l'hôpital d'Ibia, qui est assez grand. Pendant tout ce temps, le jeune agent n'a pas cessé d'agiter le mouchoir par la fenêtre. On a brûlé tous les feux rouges, enfilé des rues en sens interdit. Des policiers nous ont vus, mais ils ont juste fait signe. « Allez-y, vite !» On était désespérés. Je savais que c'était une question de vie ou de mort. Vous n'allez pas le croire. À l'hôpital, ils ne nous ont pas laissé entrer. Une infirmière est sortie voir ce qu'on voulait, alors même que nous lui avons dit « Ils ont été gazés à la station, Kazumi Gazeki. » Elle a répondu un truc du genre qu'il n'y avait pas de médecin disponible et nous a abandonnés sur le trottoir. Comment a-t-elle pu faire ça? Je ne le saurai jamais. Le jeune agent est entré dans l'hôpital presque en larmes pour supplier à la réception. « Il va mourir, il faut que vous fassiez quelque chose. » Et je l'ai rejoint. À ce moment-là, Takahashi était encore vivant, il bougeait les paupières. On est revenu l'extraire du van et on l'a déposé sur le trottoir. L'autre type s'est accroupi à côté de lui. On était tous sous le choc, tellement en colère que le sang nous montait à la tête. On a attendu là pendant des lustres. Je ne saurais dire combien de temps a piaffé. Enfin, un médecin est sorti. Et les deux agents les plus touchés ont été emportés sur les brancards. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'ils ne maîtrisaient pas du tout la situation à l'hôpital. Personne ne les avait alertés au sujet des victimes qui allaient arriver. Ils étaient dans le noir complet et ils ne savaient pas quoi faire. Il était 9h30. L'attaque avait eu lieu plus d'une heure auparavant et pourtant l'hôpital ignorait ce qui s'était passé. On a dû être les premiers à venir avec des victimes de l'attentat. Ça faisait pitié de voir ce jeune agent penché sur son collègue, son supérieur, sans savoir s'il allait s'en sortir ou non. Désespéré, il ne cessait de répéter « Examinez-le vite, vite !» Quant à moi, j'étais si inquiet que je suis resté devant l'hôpital une heure ou plus sans qu'on me transmette la moindre information. Je suis donc reparti vers le lieu de la tragédie. Je ne suis jamais retourné à l'hôpital d'Ibia et je n'ai jamais revu le jeune agent. Ce soir-là, j'ai appris que Takahashi était mort, ce qui m'a rendu très triste. Pensez qu'une personne que vous avez transportée n'a pas survécu. De la colère contre la secte Aum. Non, c'est au-delà de la colère. Qui est-ce qu'il croit tromper? Ils prétendent avoir juste obéi aux ordres d'Ashahara. Mais ce sont eux qui ont fait ça. Ils doivent être jugés et se préparer à mourir. Pour mon travail, je suis allé plusieurs fois au quartier général d'Aum, au village de Kamikuiziki. La plupart des membres du culte ont les railleurs. Comme si leur âme avait été happée. Ils ne rient pas, ne pleurent pas, on dirait des masques nos, sans expression. Je suppose qu'on peut parler à leur sujet de cerveau sous contrôle. Mais pas pour ceux qui commandent, ceux-là ont des expressions. Ils pensent, ils n'ont subi aucun lavage de cerveau, ils ont donné des ordres et ils se sont alliés à Ashahara dans leur fichu état universel. Quel que soit leur mode de défense, ils n'ont aucune excuse. Pourquoi ne pas les condamner à mort? Quand on a travaillé dans le reportage depuis aussi longtemps que moi, on a vu toutes sortes de drames. Je suis même allé à Kobe après le tremblement de terre. Mais l'attaque au gaz de Tokyo, c'était différent. C'était vraiment l'enfer. D'accord, il y a eu plein de problèmes concernant la manière dont les médias ont couvert l'événement. Mais les gens qu'on interviewait savaient quel cauchemar ils avaient vécu.
Docteur Nobuo Yanagisawa, né en 1935.
Y a-t-il une sorte de manuel pratique sur ce qu'il faut faire lors d'une catastrophe impliquant un nombre considérable de patients? Un guide auquel les médecins peuvent se référer?
Non, rien de tel. Avant l'incident de Matsumoto, nous-mêmes ignorons ce qu'il fallait absolument faire. Lorsque je suis revenu à midi, les téléphones sonnaient partout. Des cliniques de toute la région nous demandaient de leur envoyer des informations, à elles aussi. Il y avait des victimes du sarin dans plus de 100 établissements de soins. Toute la journée, ça a été l'effervescence. On n'a pas cessé de faxer. Un jour, ordinaire, sans cérémonie, j'aurais été jusqu'au cou de mon travail à l'hôpital dès 8h30, requis pour traiter un cas après l'autre. Même si quelqu'un m'avait dit « il s'est passé quelque chose d'étrange à Tokyo », je n'aurais pas eu le temps de regarder les reportages à la télévision avant le déjeuner. On n'aurait sans doute pas pu réagir aussi vite. Ça a été une très très heureuse coïncidence. En fait, le plus efficace aurait été de prendre contact avec les pompiers et de leur demander de diffuser l'information. Nous avons tenté par tous les moyens de le faire, sans réussir à les joindre. La principale leçon qu'on a apprise au gaz de Tokyo et de l'incident de Matsumoto, c'est que lorsque quelque chose d'important frappe, les unités locales peuvent réagir très rapidement, mais que la réponse globale est désespérante. Il n'y a pas au Japon de système rapide et efficace pour faire face à une telle catastrophe. Pas de chaîne de commandement claire. Ça a été la même chose pour le tremblement de terre de Kobe. Tant pour l'incident de Matsumoto que pour l'attaque au gaz de Tokyo, je pense que les équipes médicales ont très bien répondu à l'urgence. Les auxiliaires médicaux ont été très efficaces aussi. Ils méritent des louanges. Comme l'a dit un expert américain, recevoir 5000 victimes du gaz sarin et ne déplorer que 12 morts relève du miracle. Nous devons de grands remerciements aux unités locales pour leurs efforts extraordinaires parce que le réseau d'urgence centrale a été inefficace. Nous avons adressé des fax à 30 institutions médicales au moins. Aux nouvelles de 7 heures le lendemain matin, on a parlé de 70 personnes gravement atteintes. Cependant, avec le sarin, même des cas vraiment graves peuvent se rétablir en quelques heures, s'ils sont traités comme il convient. Savoir comment s'y prendre peut faire une énorme différence. J'ai sincèrement pensé que je devais donner des informations et c'est pour ça que j'ai téléphoné au bureau de la santé de Tokyo. Mais personne n'a répondu. Il était plus de 9h30 quand j'ai réussi à joindre quelqu'un qui m'a dit quelque chose comme « Eh bien, nous avons tous nos problèmes !» Qu'est-ce que cela voulait dire? Les pompiers auraient dû arriver plus rapidement pour prendre en charge la situation dans son ensemble et mettre en place des équipes de triage donnant des instructions précises. Ainsi, les ambulances auraient pu se rendre où il fallait et des médecins d'urgence auraient sans doute dû les accompagner. Une information médicale précise est vitale si vous voulez éviter la panique. Pour être tout à fait honnête, vu la manière dont nous fonctionnons au Japon, il est presque impensable qu'un médecin prenne l'initiative d'envoyer à un hôpital des informations non sollicitées. Sa première pensée sera de ne pas en dire trop, de ne pas empiéter sur le rôle d'un autre. Mais concernant l'attaque au gaz, j'avais une motivation personnelle. Une des 7 personnes mortes durant l'incident de Matsumoto était une étudiante en médecine de chez nous, à l'université de Shichu. Une jeune femme extrêmement brillante, qui aurait eu sa place ici aujourd'hui pour recevoir son diplôme. Ce simple fait m'a poussé à agir.
Nous Notre société a tendance à considérer comme maladie tout mode de pensée ou de comportement qui est incommode pour le système. Et cela est plausible parce que, quand un individu s'insère dans le système, cela cause une douleur à l'individu ainsi que des problèmes au système. Ainsi, la manipulation d'un individu pour l'adapter au système est considérée comme un remède à une maladie, et donc comme bénéfique. Je suis romancier. Et comme on le sait, un romancier est un professionnel de la narration. Celui qui élabore des histoires. Cela signifie que je dois m'atteler à une tâche suspendue. Une tâche suspendue comme une gigantesque épée au-dessus de ma tête. Une tâche que je vais devoir affronter avec beaucoup plus de sérieux à l'avenir. Je sais qu'il va me falloir construire mon propre engin de communication cosmique. Pour ce faire, je devrais probablement rassembler jusqu'à la dernière broutille chaque faiblesse, chaque insuffisance en moi. Voilà, c'est dit, mais il y a une surprise. C'est ce que je faisais précisément en tant qu'écrivain. Qu'en est-il de vous ? J'utilise la seconde personne, mais bien sûr, je m'inclus dans ce « vous ». N'avez-vous pas offert une partie de votre « moi » à quelqu'un ou quelque chose et adopté une narration en retour ? N'avez-vous pas confié une partie de votre personnalité à quelque système ou quelque orgue plus grand ? Dans ce cas, ce système n'a-t-il pas exigé de vous une sorte de folie ? La narration que vous possédez actuellement est-elle vraiment et sincèrement la vôtre ? Vos rêves sont-ils vraiment les vôtres ? Ne sont-ils pas les visions de quelqu'un d'autre ? Et qui risque, tôt ou tard, de se transformer en cauchemar.
La supplication de Svetlana Alexievitch. Ce qui vient d'être dit me paraît tout à fait résonner avec ce livre qui, lui, a bientôt 18 ans d'âge, mais qui, pour ceux qui le lisent, est en général déterminant pour la suite de leur existence. Il n'y a pas beaucoup de livres comme ça. Moi, personnellement, j'en ai eu deux. En attendant Godot de Samuel Beckett, et j'ai attendu donc quasiment 40 ans pour tomber sur celui-là. Alors qu'est-ce qui fait que ça, quelque chose bouge ? On est à la fin du XXe siècle, hein. Le livre il sort en France à l'automne 98, et c'est une petite bombe, en fait, parce qu'on avait complètement oublié Tchernobyl. Ce livre, donc, par la littérature, on va totalement reconsidérer ce qui s'est passé. Quelques années avant, il y a la fin du système soviétique. D'une certaine manière, c'est une énigme. On ne comprend pas pourquoi, finalement, ça s'est passé si facilement. Et on a le début d'une explication là. Ça ne s'est pas écrit tel quel. Hein. C'est un livre qui est fait avec 500 interviews. Ça a beaucoup de points communs avec le livre qui vient d'être lu. Ce travail des romanciers, quand les romanciers sont, sont empêchés d'écrire, en fait, parce qu'il se passe quelque chose qui leur échappe. Si c'était leur stricte existence, bah, ma foi, on se débrouille avec. Hein. Tous les romanciers, tous les artistes, quasiment, ont affaire avec leur propre existence. Mais là, on est vraiment sur autre chose. C'est l'extérieur. C'est l'inattendu. C'est l'accident. C'est l'accident. Là, c'est Tchernobyl. Mais est-ce que Tchernobyl est un accident ? Voilà. C'est là que Svetlana Alexievitch dit d'ailleurs, ce sera une énigme à résoudre pour le XXIe siècle. Donc elle propose tout de même à peu près un siècle de travail pour les chercheurs, pour les écrivains, pour nous autres, hein, finalement, pour ceux qui vivons avec avec cet événement. Depuis, bien sûr, il y a eu Fukushima. Voilà, à partir du moment où il y en a eu un deuxième, on peut s'attendre à un troisième, un quatrième, un cinquième. C'est-à-dire donc, comment allons-nous vivre dans les années, les dizaines d'années qui vont venir ? Puisque si j'étais mathématicien... je dirais que statistiquement, d'un point de vue en termes de probabilité, on est sur 10 ans maintenant, en termes de probabilité. On était sur 1 million d'années à l'époque de Tchernobyl. Donc ça va très très vite, en fait, sur ce type d'accident. On a 550 réacteurs dans le monde. Ils sont tous tout à fait anciens, pour la plupart. Enfin, on est vite anciens, hein quand on est un réacteur, c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans, je crois qu'il y en a encore qui tournent à 50 ans. Il me semble qu'en Suisse, c'est le cas. Il y a un des vieux réacteurs qui est en Suisse. Voilà, donc, moi, ce qui m'a totalement passionné dans cet événement, c'est la résonance que ça a avec notre vie. Moi, par exemple, j'avais acheté cette cloche à Bulle dans un magasin de cloches. Bon, je me trimballe avec cette cloche et je la fais sonner. Et quelqu'un qui a l'oreille fine me dit que c'était le son de la cloche qui alertait les pompiers de Pripyat, donc c'est la ville qui est à 4 km de Tchernobyl, enfin du réacteur, et qui a donc alerté à minuit, une heure, donc plutôt à une heure, les pompiers, les 30 pompiers, qu'il fallait qu'ils se réveillent et qu'ils aillent au boulot. Donc c'est cette cloche qui est une cloche, que vous connaissez, quoi, hein, qu'on connaît, a le son de la cloche qui avait pris plein. Et alors je me suis demandé pourquoi, elle a rien de particulier, si elle a été fendue. Donc elle a un son qui est tout à fait particulier. Bon, je serais totalement dans l'incapacité d'identifier, hein, mais voilà. Donc il y a quelque chose comme ça d'une vérité, hein, qui traverse, on est à 3500 km à peu près, hein. Donc c'est pas la porte à côté. Je me suis passionné aussi pour l'art, les arts, on va dire plastiques. Je me suis demandé, donc j'ai été plusieurs fois, 10 fois, à Tchernobyl même, en Biélorussie, en Ukraine. Au départ, en Biélorussie, parce que la Biélorussie, c'est le pays qui a été le plus contaminé. On considère que 70% du territoire a encore des effets, des retombées. Donc les retombées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois c'est dans l'air, mais c'est aussi dans le sol. Si c'est dans le sol, on cultive ou des arbres poussent. Enfin, voilà, hein, c'est comme partout dans le monde. Le problème, c'est que... Si un légume pousse dans une terre contaminée, c'est le légume qui est contaminé. Alors il faut arrêter de manger ces produits. Là, on est dans des endroits où la pauvreté est tombée d'un coup, hein, avec la chute du système, enfin de la vie soviétique, un mode d'organisation. Et on se retrouve avec... il faut se débrouiller soi-même, puisqu'il n'y a plus les revenus qu'il y avait avant, il n'y a plus le système. Donc les gens en quelques semaines, en quelques mois, construit un autre système, la débrouille, hein, puisque les salaires ne tombent plus, puisqu'il n'y a plus de sécurité, puisqu'il n'y a plus de cliniques, d'hôpitaux à disposition, etc. On se débrouille. Et donc la première débrouille, c'est de faire pousser des pommes de terre, des oignons, et tout le pays est devenu une sorte de potager gigantesque, jusque dans les bordures des routes, des autoroutes. Tout a été à cultiver parce que c'était une question de survie. Donc les gens ne se sont pas posé la question d'emblée de qu'est-ce qu'ils allaient manger. Il fallait manger. Et c'est l'éternelle question d'ailleurs qui se passe en ce moment à Fukushima. Même là, ça va encore plus loin, puisqu'il y a une défense des produits de Fukushima, de la pêche, etc. C'est presque un acte civique que d'acheter à manger des produits qui viennent de cette région, pour les Japonais, hein, on s'entend. Les années ont passé, de voyage en voyage, j'essayais de rencontrer des alter-ego, des metteurs en scène, des comédiens, puisque c'est mon champ, moi, de travail, et puis des artistes, puisque l'Union soviétique a eu ce privilège, parce qu'au fond, on peut l'entendre comme ça, d'avoir des centaines de milliers de, on va dire, d'artistes, puisque nous, on considère qu'un peintre, c'est un artiste, un comédien, c'est un artiste, un danseur, c'est un artiste, un musicien, c'est un artiste, parce que l'ensemble de la population bénéficiait de représentations, d'opéras, par centaines de milliers par an. Donc ces peintres se sont retrouvés, je pense aux peintres, hein, bon, parce que là on est aussi dans une exposition, donc les peintres, qu'ont-ils fait ? Ce sont des gens d'un niveau absolument considérable. C'est comme les musiciens, c'est comme les comédiens, les artistes formés dans le système soviétique. C'est très très difficile de trouver mieux. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup trouvé de travail en quittant leur pays. Et donc, il y a eu comme une stagnation. C'était un constat. Hein. J'allais dans les galeries, j'allais dans les académies, rien ne bougeait. Je me dis, mais c'est quand même incroyable, c'est un chamboulement considérable. Il y a des centaines de villages qu'il a fallu quitter, des villes entières ont été déplacées, des gens tombent malades, hein, etc. Ça n'a aucun effet sur l'art. Alors j'ai une grande discussion un jour avec le traducteur, avec un peintre. Voilà, qui produit ce genre de peinture. Donc autant dire qu'on n'est pas dans l'art contemporain, hein, c'est même pas, voilà, c'est et c'est magnifique, hein, c'est-à-dire que il fait partie de cette peinture, on va dire académique, mais qui est extrêmement appréciée, prisée, etc. Mais que plus personne n'achète, parce que les gens n'ont pas les moyens non plus d'acheter ces tableaux. Et je lui ai dit, mais enfin, puisque vous peignez la nature, pourquoi est-ce que vous ne peignez pas la nature comme elle est ? C'est-à-dire, effectivement, ces villages désertés, ces villes abandonnées, ces centaines de camions, d'hélicoptères, enfin, c'est des sujets à peindre, enfin, qui me paraissent absolument... très important, et très important aussi pour le faire savoir. Enfin pour ce... voilà, Et alors, il y avait presque une résistance. Il a dit, mais nous ne voulons pas. On ne veut pas peindre. Bien sûr qu'on pourrait, mais c'est une résistance, en fait. Donc, ils sont des milliers de peintres. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas retourné en Biélorussie depuis 7 ans. Donc, je ne peux pas dire ce qu'il en est. Il est possible que des choses aient bougé. En art contemporain, ça bouge. Ça bouge très fort. C'est un pays totalitaire. Et il arrive qu'il y ait des actions violentes. on risque sa vie à tout bout de champ dans un pays comme ça, dès lors qu'il nous est arrivé, nous, de simplement rester debout à une station de métro et on nous déplace de force. On n'a pas le droit de rester planté, donner un rendez-vous à une station de métro, par exemple. Alors, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu le film de ça. Un performeur s'est cousu la bouche devant le palais présidentiel de Minsk. Un autre a déversé trois brouettes de fumier toujours devant ce palais présidentiel. Bon, autant vous dire que ces gens-là, ils ne vont pas le refaire le lendemain. Voilà, ils sont empêchés. Lorsqu'il y a eu une manifestation après une élection, 600 personnes ont été mises en prison pendant plusieurs mois. Bon, ça va très très... C'est vraiment en grand, quoi. Hein, enfin, 600 sur 3000 qui manifestaient. Et, donc, ça c'est la Biélorussie, mais j'ai rencontré d'autres artistes qui, eux, seraient plutôt dans... Il y a une peinture naïve en Ukraine, et un tenant donc de cette peinture naïve, eh ben, lui s'est emparé totalement de la question de Tchernobyl. Il faut dire que lui, il vit dans la zone. Hein. Et donc, il fait ce décalage. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si c'est visible. Enfin, voilà. C'était comme ça. Et puis, voilà, il y a ce jaillissement. Bien sûr, c'est assez naïf. C'est ça, le naïf. Et quelque chose se dégage. Les gens ont un mal fou à acheter ce genre de peinture pour mettre chez soi, en Ukraine. Donc évidemment, ça se vend. Ça se vend pas du tout. Donc, il me semble, et j'ai essayé à une époque de faire passer ces tableaux. Bon, il faudrait que ce soit clandestin. C'est extrêmement compliqué d'exporter une exposition de, je sais pas, 30 ou 40 tableaux. Ça aurait un coût, enfin, etc. C'est-à-dire faire ça de manière, voilà, avec nos moyens à nous, c'est pour l'instant impossible. Enfin, j'ai pas réussi. Voilà, ben écoutez, il y avait un temps imparti. Je pense que je l'ai mangé.
Tu l'as mangé? Non, je sais pas. Bah, si vous avez des questions aussi, enfin, profitez de toi un peu.
Oui. Bien.
Le sujet?
Par exemple, pourquoi pas, oui.
Toi, qu'est-ce que ça t'évoque entre on est en cours, mais entre Tchernobyl et Fukushima, est-ce que tu fais un parallèle ou ça t'évoque
Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ça renforce la statistique et la probabilité d'un prochain accident, parce que jusqu'à Fukushima, enfin, Tchernobyl a fait chuter la probabilité, puisque... Tous les fabricants de réacteurs ont toujours dit que c'était sûr, leur système. Bon. Le premier qui a défailli, c'était Three Mile Island aux États-Unis. Bon, l'accident n'a pas eu lieu, mais c'est à quelques secondes près. C'est comme il n'y a pas très longtemps en Suède. Deux ou trois ans, un accident vraiment... Enfin, fusion, quoi, ce qu'on appelle la fusion du réacteur, il s'en est fallu de quelques secondes, en fait. Alors, bien sûr, il y a des très bons... Voilà, on est dans le top, hein, au niveau de la technologie. Moi, je ne veux pas du tout remettre ça en question. Hein. Mais voilà, si Fukushima, on est dans le top, on n'est pas du tout... Si vous voulez, le système soviétique a toujours été critiqué à tous les niveaux. Bon, donc, notamment nucléaire, ça a été très facile de dire oui, mais c'était soviétique. Alors bon, du coup, tous les autres, ça les a renforcés. Même du coup, on a vendu du matériel français, américain. Bon, Fukushima, on peut plus dire la même chose. Alors, je ne sais pas en Suisse, mais en France, moi je suis français. En France, depuis Fukushima, on a installé dans la pensée du public, des gens, qu'un accident était possible et que donc il fallait s'y préparer financièrement, on va dire techniquement. Et il y a beaucoup plus qu'avant cette idée qu'au fond on est responsable du système dans lequel on est, et que s'il s'avère qu'il y a un accident, ben c'est à toute la population de prendre en charge les effets de, cet accident. Ça, c'est quand même nouveau, parce que le système soviétique faisait que la prise en charge était celle du système, et au fond, quand on voit ce qui s'est passé à Fukushima, on peut se dire qu'il a fallu 10 jours pour calmer le système, enfin le feu nucléaire à Tchernobyl, ce qui est un tour de force, puisque Fukushima, on peut même considérer que c'est pas terminé. Donc, on est sur une autre, une autre dimension. Fukushima, donc dans un système japonais, qui à la fois a des points communs dans ce que disait le dernier, enfin l'avant-dernier témoignage sur le comment on est organisé quand on est japonais. Moi, j'entendais complètement ce que disaient les soviétiques. Donc, c'est jamais assez bien organisé. C'est évident. C'est le principe même de l'accident. En France, on sait très bien que ni un système japonais ni un système soviétique ne fonctionnerait. Chacun va se débrouiller tout seul. Donc ça va être une bagaille monstre. C'est arrivé une fois à Toulouse, il y a 12 ans, 13 ans, 14 ans, je ne sais plus, 2002, lorsqu'il y a eu une explosion dans du matériel chimique, on va dire, dans des entrepôts, la ville a été entièrement bloquée. C'est-à-dire que toutes les consignes qui étaient données n'était pas observé et pas adapté. Par exemple, une des consignes majeures, c'était fermez vos fenêtres, fermez vos volets, protégez-vous. Bon, je crois qu'il y a eu 15 000 ou 20 000 fenêtres qui ont explosé du fait du souffle de cet accident. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un raisonnement... bon, il y a le dossier... ça s'appelle un plan d'évacuation. Enfin, il fait à peu près 150 pages. Il est sur le net. Hein, on peut totalement y accéder. On sait exactement ce qu'il faut faire, etc. On est responsable. On est censé lire ce dossier. Moi, je l'ai lu parce que effectivement, c'est quand même passionnant de penser qu'il y a des gens qui travaillent cette question-là. Voilà, donc ça, c'est grâce à Fukushima, en fait. Et on peut se dire que dans tous les pays... alors, par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'une ville comme Bordeaux, moi j'ai travaillé sur le Blayais, donc le réacteur du Blayais, a supposé qu'il y a un accident au Blayais, Bordeaux ne sera pas évacué, parce que la ville est trop grande. Et effectivement, c'est pas imaginable. Pripyat, c'était 50 000 habitants, 150 000 personnes en fait ont été déplacées sur toute la surface. Bon, dans un système soviétique, c'est de l'ordre du possible. Mais en même temps, ça a ruiné l'Union soviétique. Hein. Gorbatchev l'a dit. Et là, j'essayais de retenir le chiffre pour ce soir et il s'est échappé de ma tête. Mais la somme qu'a coûté pour l'instant l'accident de Tchernobyl est absolument considérable. Et c'est une des raisons, et Gorbatchev l'a dit il n'y a pas très longtemps, de la fin du système soviétique. C'est-à-dire qu'ils étaient ruinés. Ce qui a fait dire d'ailleurs à une époque que l'accident avait été provoqué par les Américains, etc. Quoi. Enfin, c'était un effet de la guerre froide. Bon, c'est toujours... fait partie du système des paranoïaques, on va dire.
Bon, ouais. Oui. C'est sympa. On
attend. Ah ben, c'est-à-dire vaut mieux effectivement être conscient de la chose. Hein. C'est évident. Moi, si vous voulez, la perspective, moi, ce qui me préoccupe énormément, enfin, ce qui d'ailleurs me meut, hein, je passe quasiment ma vie maintenant autour de cette question. C'est effectivement cet enchaînement possible des accidents. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'attend à mille autres choses, hein, comme voilà, les effets de serre, enfin, etc. En fait, on n'arrive pas à intégrer l'accident nucléaire. Et voilà. Donc c'est. Et en même temps, il faut travailler la. Il faut travailler le. Il faut probablement lutter contre, mais ça, on n'y arrive pas. Ça fait 40 ans. Tous les gens qui ont été anti-nucléaires ou qui sont anti-nucléaires, de fait, c'est l'échec total. Hein, le rapport de force est nul. Les arguments sont en général absolument pas en la faveur des anti-nucléaires. Enfin voilà. Donc c'est pas du tout là qu'il faut travailler. Moi je travaille la question de la santé, parce qu'en fait, bien au-delà des zones contaminées, on peut considérer que la contamination est diffuse. Hein. Donc après, c'est une question de quantité. Hein, donc d'où le fait, par exemple, qu'il y a eu des bombes, des essais atomiques, etc., a eu des effets ravageurs, en fait, dont on est absolument victime sans s'en rendre compte. Et puis donc les accidents qui sont là, comme pour moi, ces accidents ne sont juste là que comme des scénarios. Voilà, c'est des scénarios et voilà.
Ouais, c'est comme des choses concrètes et qui viennent plus vite que le problème des déchets. Parce que finalement, les déchets, c'est un peu facile. On se dit, bon,
c'est... Oui, ben les déchets, c'est dans les
millions, mais dans un million, on sera encore mort. Alors que. Alors que dans l'accident, ce qui, c'est peut-être le seul intérêt, je dis ça ironiquement, mais c'est que ça arrive tout de suite et que c'est tout de suite concret, quoi.
Ouais.
Mais.
Et puis en fait, on a eu de la chance. Tchernobyl, ils ont réussi à calmer. Et puis Fukushima
non. Vous voyez, aux États-Unis, il y a déjà des statistiques où c'est plusieurs dizaines de milliers de morts depuis Fukushima. Aux États-Unis.
D'accord.
Donc on est, si vous voulez, dans des. La grande difficulté, c'est que le lobby est tellement puissant qu'on ne peut pas travailler même scientifiquement sur ces questions-là. Moi, je fais partie d'une organisation qui s'appelle Independent Truth, c'est un collectif, en fait, hein, c'est pas une organisation, qui, depuis 8 ans maintenant, est tous les jours devant l'OMS à Genève. Il y a au moins une personne, uniquement pour dénoncer la politique, la position de l'OMS par rapport à la santé lié à la radioprotection, puisqu'il n'y a pas de, l'OMS est absolument absent de tous les terrains, Fukushima, Tchernobyl, parce qu'il y a d'autres endroits, hein, notamment en Russie, où il y a eu des très très graves accidents dans les années 50-60, et où là, il y a des milliers de gens qui vivent extrêmement mal. Voilà, donc c'est une présence, hein, où ça s'appelle Independent Who, vous tapez, tous les jours, il y a une personne qui est là, 9 heures par jour, devant l'OMS, donc tous les gens qui arrivent avec leur 4x4, leur super bagnole, etc., passent devant ces gens qui ont des panneaux et qui disent simplement « crime de Tchernobyl, OMS complice », bon, en anglais. Donc ça, c'est quand même, voilà, on se dit c'est aberrant de faire un truc comme ça, c'est absurde. Bon, ben non, en fait, ça commence à se savoir... niveau international, c'est évidemment pas ça qui va changer les choses, hein. on est bien d'accord, hein, ça peut pas, mais enfin, du moins, ça permet de quand des gens à Tchernobyl savent que l'on fait ça, eux, ça leur donne la pêche, parce que, je veux dire, vivre en zone contaminée, c'est quand même pas rien, hein.
Moi, je pense que c'est d'autant plus important pour nous qui habitons dans le canton de Vaud, puisqu'il faut se rappeler qu'il y a eu dans le cours des années 60, un accident à Moudon, à Lussan, pardon, oui, qui est à 20 km de Lausanne.
Ils ont enlevé, il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, ils ont enlevé les derniers.
C'est là où je voulais en venir, c'est que même si c'était un accident de catégorie 3 sur 5, où il n'y a pas eu de victimes, en tout cas officiellement ou directement, ça n'est pas les détails, c'est que même pour un accident minime d'une installation expérimentale, il a fallu plus de 40 ans pour démanteler l'installation. Donc quand on s'imagine, dans un cas aussi léger que ça, qu'il faut 40 ans pour démanteler des installations, combien de millions d'années il faudra pour démanteler, ne serait-ce que démanteler, et quels moyens financiers pour démanteler, si c'est possible, une installation aussi complexe que celle de Tchernobyl ou de Fukushima.
Il y a de l'eau de ruissellement qui sort. radioactive. Ils peuvent rien faire. Elles sont radioactives, on le sait, voilà, c'est comme ça. C'est pas beaucoup, c'est un petit peu, mais ça sort.
Et ça, on a tendance à l'oublier parce qu'on regarde effectivement, nos regards et nos consciences sont focalisés sur Fukushima, sur ce qui se passe à l'autre bout du monde. On oublie, je pense, trop souvent qu'à 40 km d'ici, un accident d'importance a quand même eu lieu il y a 40 ans.